Interview.
10 voix pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou aussi sur 101.7 sur Luc en 10 voix. Les émissions sont aussi écoutables sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent Paltera. Bonjour.
Et bonjour.
Vincent Paltera, tu es avec Christine Riba, co-porte-parole de la Confédération paysanne de la Drôme. Et tu es ici pour nous parler, entre autres, de la relance 2030 prônée par le président de la République. Sur certains détails, d'ailleurs, vous revenez dessus. Et aussi, peut-être pour marquer le coup sur ce désaccord, votre présence qui s'est déroulée donc à l'insu de la direction départementale des territoires de leurs locaux.
Oui, oui, on a organisé une action conjointement avec des mouvements citoyens, à savoir les soulèvements de la terre et Extinction Rébellion. Et on a donc occupé pendant une après-midi les locaux de la direction départementale des territoires, qui sont en fait ceux qui mettent en œuvre les politiques du gouvernement sous la houlette du préfet ou de la préfète.
Alors, j'avais envie de proposer à l'écoute des auditeurs et aussi pour toi le discours du président de la République concernant ce plan de relance 2030. Et on va s'intéresser au secteur justement qui vous embarrasse en quelque sorte. Et nous allons passer à un passage qui dure 2 minutes 18. Alors, ce que je propose, si Vincent, tu veux intervenir sur les propos, on peut stopper l'écoute et tu puisses intervenir.
Parce qu'il nous faut réussir à ce que chaque agriculteur puisse vivre de son travail, qu'on réussisse une transition démographique au moment où nous avons un transfert, une transmission entre générations inédite dans notre pays, et produire de plus en plus avec une qualité et une sécurité alimentaire qui soit toujours améliorée. Pour réussir cette nouvelle révolution de l'alimentation saine, durable et traçable, qui sont les trois objectifs que nous devons nous donner pour 2030, nous devons investir dans trois révolutions qui vont, en quelque sorte, être la suite de la révolution mécanique et de la révolution chimique qu'on a connue.
Oui, donc c'est une bonne introduction. Il y a certains points où, effectivement, je vais être d'accord avec notre président, à savoir qu'on est vraiment à un moment charnière de transition démographique, comme il l'explique. La transition dans la démographie agricole, ça va être que d'ici 5 à 7 ans, il y a plus de la moitié des agriculteurs qui travaillent actuellement qui seront à la retraite. Donc, cette transition démographique, apparemment, le gouvernement voudrait en faire une nouvelle révolution agricole. Il a parlé de la révolution mécanique, donc, qui a eu lieu dans les années 50, puis de la révolution chimique des années 60-70. Et là, ça serait l'introduction miraculeuse de la robotique, la génétique et la numérique. Si on fait un état des lieux de l'agriculture en France aujourd'hui, on peut dire que dans l'ensemble, c'est plutôt une profession en crise, qui est en crise pour plusieurs raisons. Déjà parce que comme il a l'air de le dire, en substance, les agriculteurs ont beaucoup de mal à vivre de leur travail. Et qu'en plus de ça, le modèle alimentaire qui est proposé actuellement, à savoir celui de l'agro-industrie, est loin d'être plébiscité par l'ensemble de la population. On a plutôt un rejet de l'agriculture basé sur notamment l'usage à outrance de chimie. Donc, la proposition du gouvernement, ça serait en fait d'utiliser les mêmes ingrédients pour résoudre la situation dans laquelle on est actuellement, à savoir encore plus de technologie, à savoir encore plus de dépendance des agriculteurs vis-à-vis de l'industrie qui fournit les machines, et à savoir aussi ce qu'on entend, c'est bien robotique numérique génétique, à savoir l'usage de manipulation génétique. C'est jamais dit clairement, mais en vérité, les OGM qu'on a réussi à chasser en France il y a une vingtaine d'années reviennent par la petite porte actuellement. C'est ça aussi qu'il faut savoir entendre dans ce genre de discours. Et après, on pourra commenter, commenter point par point, à quel point, en fait, c'est des mensonges, tout ça. Il n'y aura pas de meilleurs revenus pour les agriculteurs. La transition va se faire comme toutes les autres se sont faites, à savoir que depuis 1990, on a perdu 800 000 agriculteurs. Donc, d'ici à 10 ans, il reste 400 000 agriculteurs en France. Normalement, on devrait en perdre plus de 200 000. Voilà. Et c'est ce qui va se passer, et ça va même être empiré par cette politique.
Pourquoi mettre en doute, je reviens sur ce propos, mettre en doute le revenu paysan serait-il moins... ne serait pas amélioré, comme tu penses, au contraire ?
Tout simplement parce que, déjà, les investissements que représentent ces machines-là, en général, ils sont synonymes de dette. Ils sont synonymes de gros emprunts à la banque. Et ça donne des systèmes dans lesquels l'agriculteur est très, très contraint à produire toujours plus, avec des coûts toujours... avec des prix de production, des prix à l'achat de leur production toujours de plus en plus bas. Et c'est un peu la course à l'échalote, quoi. Plus on produit, plus les prix sont bas. Plus les prix sont bas, plus il faut produire pour vivre de son travail. Et en plus de ça, il faut savoir qu'on a quand même une certaine évolution des prix du pétrole actuellement, et que toutes ces machines-là sont extrêmement dépendantes non seulement du pétrole, mais aussi de tout un tas de... Parce que quand on parle de numérique, on parle de terres rares, on parle de big data, on parle en fait de tout ce que représente écologiquement l'industrie du numérique.
Le numérique, la robotique, la génétique. Ce sont les trois transformations essentielles. Et ça passe par de l'investissement, là aussi, des technologies de rupture. Dans la robotique agricole, pour permettre parfois de sortir de certains pesticides, de sortir de certaines pratiques, pour aussi améliorer la qualité de vie et améliorer la productivité. Dans la donnée, ce qui permet à la fois une gestion plus fine des productions en fonction des différents aléas, le traçage des aliments, parce que c'est ce que demandent les consommateurs. Et dans la diversité génétique, pour des productions plus résilientes et plus solides.
Donc, on peut voir qu'il explicite un petit peu son propos là. Donc, ce qu'on vient de dire, en fait, sur les big data, un petit exemple, regarder une vidéo en streaming, ça prend à peu près autant d'énergie, tout compris, hein, avec le stockage de la vidéo dans des serveurs, etc., que de faire tourner un frigo pendant un an. Une heure de vidéo en streaming. C'est l'énergie qu'il faut pour faire tourner un frigo pendant un an. Donc, répondre aux enjeux écologiques avec ce genre de solution, c'est quand même du grand foutage de gueule. Il faut bien le dire, quoi. Parce que les machines sont très coûteuses écologiquement à produire, les big data sont très coûteuses écologiquement à capter, à stocker et à rendre par la suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils parlent d'investissements financiers pour l'agriculture, mais en fait, ces investissements-là ne sont pas pour l'agriculture. Ces investissements-là, ils sont pour les start-up, l'industrie machiniste et l'industrie chimiste et l'industrie de la génétique qui va rendre encore plus captive le système de production alimentaire français.
Alors, en prenant un peu de recul, on peut s'imaginer ou voir ou constater tout simplement qu'à chaque génération d'agriculteurs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a eu ce soutien économique ou logistique pour développer justement l'agriculture. D'ailleurs, le président le cite, hein, il y a eu la mécanique juste après la guerre et ensuite la chimie à partir des années 70. Est-ce que, en parallèle de l'agriculteur, il y a toujours cette structure, ces structures qui les environnent et qui en profitent?
Pas dans tous les systèmes agricoles. Hein. À la Confédération paysanne, on défend un modèle justement d'agriculture paysanne. Et l'objectif de l'agriculture paysanne, c'est de travailler à ce que chaque paysan ait un maximum d'indépendance, un maximum d'autonomie dans sa ferme, à savoir qu'il doit maîtriser à la fois l'amont, donc les machines, les filiales de semences, etc., suivant les domaines, et aussi l'aval, donc comment est-ce qu'il vend ses produits, choisir à quel prix il doit les vendre pour en vivre correctement. Et ce modèle-là, c'est un modèle bien plus résilient déjà face aux crises. C'est un modèle bien plus écologique parce que on n'a pas besoin en fait de produire des quantités énormes de nourriture si on valorise mieux nos produits. Il se trouve que les gens en général plébiscitent les produits agricoles de qualité et ça permet de les vendre à un juste prix et donc de ne pas forcément être obligé d'en passer par des excès chimiques. Et dernière chose que je pourrais ajouter, tu parlais en fait de subventions ou de soutien des agriculteurs par des politiques d'État. Moi, je ne parle pas de subventions aux agriculteurs. Actuellement, la manière dont est distribué l'argent de la politique agricole commune, c'est du soutien à l'agro-industrie, c'est du soutien aux fabricants de machines agricoles et c'est du soutien à la grande distribution. En vérité, l'agriculteur ne profite pas de ces subventions. Ces subventions, si on regarde les statistiques, actuellement, tu as à peu près une moitié des fermes conventionnelles qui ne dégagent aucun revenu de leur travail et qui survivent avec ces subventions. En fait, les revenus de la production agricole vont à peu près tous dans les banques qui font les emprunts, ceux qui vendent des machines agricoles, ceux qui vendent des produits chimiques et la grande distribution qui ensuite va casser les prix, rendre les agriculteurs captifs et défiscaliser les soi-disant dons qu'elle va faire à l'aide alimentaire pour se redorer son blason un petit peu.
C'est une figure que l'on retrouve dans diverses politiques. Hein. On parle de l'agriculture ici, mais pour ce qui est de l'éducation nationale ou de la santé, souvent, les plans de relance recouvrent une bonne partie de contrats pour le bâtiment public, les travaux et chantiers publics. Voilà. Et donc, est-ce qu'on continue un peu cette lecture ?
Oui. Dans les biosolutions, la captation du carbone pour une agriculture qui soit compatible avec l'exigence environnementale, vous l'avez d'ailleurs très bien dit. Et donc, la révolution dans laquelle nous sommes, c'est celle numérique, robotique, génétique. Et c'est celle qui nous permettra de continuer à produire pour nous nourrir, en améliorant toujours la qualité de notre alimentation, en améliorant notre compétitivité et en baissant les émissions de CO2. Si on ne traite qu'un de ces termes, on ne répond pas à la question. Si on a une transition agricole qui ne règle que le problème de l'émission de CO2 de notre agriculture, c'est simple. On aura moins d'agriculture française, mais on importera plus de produits qui sont faits ailleurs sur des standards qui sont moins bons que les nôtres.
Alors, là, on rentre dans un des grands paradigmes, c'est que, une chose qui n'est jamais remise en question dans le système actuel, c'est le sacro-saint libre-échange. Et il vient d'en donner la preuve. C'est que, en fait, si on n'a pas une agriculture high-tech comme celle qu'il essaye de nous vendre, on va être envahi de produits ramassés par des ouvriers agricoles très, très, très mal payés et très, très, très mal reçus, qui sont souvent des migrants, des personnes en grande difficulté. On va avoir des produits bourrés de pesticides, etc., etc., etc. Donc, sous prétexte que tous ces produits-là, on ne peut absolument pas interdire qu'ils soient vendus en France, et on doit absolument les mettre en concurrence avec les produits français qui, eux, sont produits, vont être produits éventuellement selon des standards sociaux et écologiques meilleurs. Pourquoi ça ne devrait pas être mis en cause? Et pourquoi est-ce qu'on devrait passer par encore plus de technologies pour rentrer en concurrence avec ce genre de production agricole? Ça, c'est une question qui n'est jamais posée. Et c'est une question qui est soigneusement évitée, même par nos gouvernants qui Révère la technologie et le libre-échange.
C'est ça l'erreur à ne pas faire. Et donc c'est une stratégie française qu'on veut dupliquer au niveau européen, mais qui là aussi passe par évidemment des transitions, des aménagements, mais qui passe par de l'investissement pour permettre d'accompagner ces ruptures. Au total, 2 milliards d'euros, dont des fonds propres, seront consacrés à ces enjeux.
Donc 2 milliards d'euros consacrés, ces 2 milliards, on ignore à qui ils seront distribués à l'heure actuelle ?
Je pense que dans le détail, effectivement, on ignore. Après, on a bien compris que la tendance, elle allait être à subventionner des start-up numériques, à mettre l'accent sur la recherche génétique et la robotique. Donc tout ça, en fait, ne va pas aller à la création d'emplois dans l'agriculture. Tout ça va aller dans la poche d'actionnaires, de sociétés qui prendront prétexte d'écologie et d'amélioration de la productivité agricole pour continuer de se servir sur la dépouille de l'agriculture française. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que l'agriculture française, elle va mourir, quoi. Je veux dire, ce qui va arriver à terme, peut-être pas à l'échelon 2030, peut-être à l'échelon 2040 ou 2050, c'est que les investissements seront tellement importants, les machines tellement standardisées, qu'il faudra des exploitations immenses qui seront absolument hors de portée des exploitations familiales telles qu'on les trouve encore actuellement en grande majorité en France. Et le mouvement, il a déjà commencé. On a des firmes chinoises qui rachètent 1700 hectares dans le centre de la France pour de la production de céréales. On a des firmes qui mettent en place des domaines immenses et qui, eux, ont toute une armée de comptables pour calculer qu'avec telle ou telle subvention, on va rentabiliser le truc et dans lesquels on retrouve ce système d'employés mal payés, etc., etc.
On peut rester un peu plus local. Donc, vous citez par exemple une entreprise qui s'appelle Carbon Bee à Valence et qui est spécialisée dans la robotisation connectée des pulvérisations de pesticides. Alors, en quoi consiste exactement ce dispositif ?
C'est des dispositifs donc, qui sont montés à l'arrière des tracteurs avec des rampes de 12 mètres de large. C'est des espèces de Terminator des champs avec une petite caméra qui dit attention, là, mauvaise herbe. Et la rampe, du coup, va viser la mauvaise herbe pour pulvériser le Roundup ou autre produits chimiques destinés à faire mourir tout ce qui ne sied pas à l'agriculture industrielle.
Alors, la grande inquiétude, c'est justement la disparition des paysans et paysannes dans l'activité agricole, et paysannes surtout.
Oui, la disparition, je parlais du modèle économique tout à l'heure. Si on regarde le modèle économique de l'agriculture paysanne, en général, on n'a pas tant besoin que ça des subventions pour en fait, vivre de notre travail en agriculture paysanne. On a les mêmes, d'un point de vue strictement économico-libéral, si on se plaçait du point de vue des tenants du libéralisme économique, en fait, nos systèmes sont bien plus performants que les leurs. C'est une évidence. Simplement, ils ne voudront pas l'admettre parce que ça serait admettre que l'argent public est gaspillé pour continuer de polluer, pour fournir de l'argent aux actionnaires des différentes sociétés acteurs de l'agro-industrie. Et ça serait reconnaître aussi que les modèles les économiquement les plus performants sont aussi écologiquement les plus performants. Donc voilà, on nie des évidences dans ce genre de discours. Et souvent, ça passe parce que les gens ne sont pas toujours informés de qu'est-ce que c'est que la réalité du monde agricole.
tiens, je voulais venir. Ah mince, j'avais une question là-dessus. Si je pourrais passer à ça. En septembre, à Bourg-les-Valence, en Drôme, donc, il y avait le salon Tech & Bio. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est justement le domaine qui laisse présager ce que sera l'agriculture de demain, déjà. Je voulais savoir... de quel regard voyez-vous ce type de salon qui prône, et avec des étiquettes bio en plus, hein, sur la campagne, quel regard avez-vous sur cette espèce de cheval de Troie, je dirais ?
Bah, bon, faut être un peu nuancé. Effectivement, le côté tech and bio... va servir de vitrine écologique et ça, on peut le dénoncer. Le fait qu'on veuille associer systématiquement technologie et écologie. Mais contrairement à ce que notre président affirmait, c'est pas parce qu'on rejette son plan agriculture 2030, robotique, génétique, numérique, qu'on est des Amish qui avons décidé qu'il fallait continuer de s'éclairer à la bougie. Non, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que les machines soient au service de l'homme et pas l'homme au service des machines. Voilà. Et ces machines-là, en fait, au bout du compte, pour aller un peu plus loin, elles sont au service du monde financier, elles sont au service du système de captation des richesses et de maintien sous contrôle d'un des domaines essentiels, en fait, de la vie, qui est l'alimentation.
Une question que je me pose par rapport à la Confédération paysanne, au niveau national même, à savoir, est-ce que vous envisagez aussi une manière de créer justement toute une machinerie ou une technologie qui serait à soulager le travail des paysans ?
Oui, bien sûr, en agriculture paysanne, donc comme je disais, il n'y a pas de rejet dans l'absolu des techniques ou de la technologie. Simplement, on promeut des outils, des technologies qui renforcent l'indépendance du paysan. Donc, il faut que ce soit des outils, soit qu'il peut fabriquer lui-même, soit qu'il peut au moins réparer lui-même. Et pour ça, il y a donc une structure qui est une structure affiliée à la Confédération paysanne qui s'appelle l'Atelier paysan et qui met à disposition donc ses travaux de conception d'outils agricoles pour l'agriculture paysanne en accès libre sur Internet et qui organise aussi des formations qui permettent à tout un chacun de se rendre maître des techniques pour fabriquer ou réparer ces outils, voire même concevoir des nouveaux outils.
On peut parler aussi des soulèvements de la terre. Cela émane de collectifs. Qui y adhère ?
Ben, beaucoup de monde. C'est un mouvement qui rassemble pas mal de jeunes, hein, déjà. Et en fait, ça rassemble des citoyens qui en ont marre des mensonges qui sont... proférer en permanence sur le fait que, oui, on a pris en main le problème écologique, oui, les choses ont changé, etc., etc., alors que, dans les faits, on n'a même pas diminué l'accélération de la production de gaz carbonique actuellement. On est très, très, très loin des solutions qui vont nous empêcher d'aller dans le mur. Et les soulèvements de la terre s'intéressent particulièrement au modèle agricole parce que le modèle agricole représente 20 à 25% des émissions de carbone. Si on ne parle que du carbone, hein, il ne faut pas parler que du carbone quand on parle d'écologie, mais 20 à 25% des émissions de carbone est certainement est l'élément prépondérant dans la perte de biodiversité actuelle, quoi, dans l'effondrement même de la biodiversité de nos campagnes.
Ce mouvement qui a eu lieu hier a donné lieu à une rencontre avec Madame la Préfète. Qu'en est-il résulté ?
Donc, on a demandé à Madame la Préfète un rendez-vous qu'elle nous a accordé le lendemain de l'action de mercredi. Déjà pour qu'elle puisse faire remonter au ministère l'opposition qu'ils rencontreront dans la mise en place de leur plan agriculture robotique génétique numérique, parce que actuellement la Confédération paysanne est un syndicat représentatif à hauteur de 20-25% des agriculteurs en France. Et dans toutes les négociations qu'il peut y avoir, que ce soit sur les subventions de la politique agricole commune, sur les réglementations, on n'est pas du tout entendu. C'est même le contraire. On est traité par le mépris. Voilà. On est traité par le mépris, alors que je pense que si on demande à n'importe qui, une majorité de la population dira que oui, ils veulent moins de pesticides, oui, ils veulent une alimentation de meilleure qualité, et oui, ils préfèrent qu'il y ait plus de paysans qui gagnent mieux leur vie plutôt que quelques-uns qui enrichissent le système agro-industriel.
Comment peux-tu expliquer cette force qu'il y a derrière la finance et ces productions insipides, et face au mouvement paysan, par exemple, plus près de la nature et au travail certainement plus proche de l'humanité?
Ben, en fait, le système a été bâti maintenant depuis 70 ans, à peu près. Et il faut savoir que, effectivement, depuis toujours, il y a des choses pénibles dans le travail de paysans. Et c'est la réduction de cette pénibilité qui a été vendue aux premières générations qui ont subi donc les révolutions agricoles, la révolution de la mécanisation, la révolution de la chimie. Et on leur a aussi vendu une amélioration de leurs revenus. Mais si on regarde les courbes, les revenus paysans ont progressé entre les années 60 et la fin des années 70, soit à peu près le temps de former une nouvelle génération de paysans. Former, on pourrait aller plus loin, on pourrait dire formater une nouvelle génération de paysans dans les lycées agricoles, à qui on a expliqué que de toute façon, s'ils voulaient être modernes, s'ils voulaient gagner leur vie, s'ils voulaient être pris au sérieux dans leur métier, il fallait qu'ils utilisent les tracteurs, il fallait qu'ils utilisent la chimie, et il fallait qu'ils produisent plus, avec toujours plus de terres et toujours moins de main-d'œuvre sur leur ferme. C'est ça qui s'est passé et c'est ça qui fait qu'actuellement, effectivement, on pourrait constater une fracture entre des tenants de l'agriculture paysanne et des tenants de l'agriculture industrielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, l'agriculture biologique, qui, il y a 20 ans, passait pour une lubie de quelques-uns perdus au fin fond de la cambrousse, on a aujourd'hui des gens qui sont bien placés dans le syndicat majoritaire, à savoir la FNSEA, et qui font de l'agriculture biologique, tout simplement parce que, financièrement parlant, ils y trouvent leur intérêt. Pourquoi est-ce que, financièrement parlant, ils y trouvent leur intérêt? Parce que la population s'est rendue compte aussi qu'on avait une alimentation de très mauvaise qualité. Et cette alimentation de très mauvaise qualité, la troisième révolution, entre guillemets, qu'on nous présente, on va continuer de l'avoir, mais simplement, on va laisser une niche de manière à ce que ceux qui ont les moyens puissent se payer du bio, et ceux qui n'ont pas les moyens, ben, ils mangeront ce qu'ils pourront. Et une chose qu'on pourrait rajouter, même si ce n'est pas exactement le sujet de ta question, c'est que tout ça est en lien en fait, avec l'évolution mondiale de l'agriculture. Et que les excédents agricoles que la France produit lui servent à maintenir en dépendance ses anciennes colonies dans lesquelles elle a déstructuré la production alimentaire locale pour la remplacer par du cacao, de l'huile de palme, par de la déforestation, etc. Et du coup, c'est bien beau d'avoir dit on décolonise, mais quand on a laissé des pays incapables d'être autonomes alimentairement, bah, on n'a rien décolonisé du tout, vu qu'on leur vend à vil prix nos vils aliments pleins de produits chimiques.
Je reviens un peu sur le mouvement de la terre, les soulèvements de la terre, pardon, qui donneront un rendez-vous à Lyon le 5 mars. Est-ce qu'on peut parler de cette journée ?
Oui, bien sûr. C'était un des autres objectifs du mouvement de mercredi. C'était de mettre en avant le fait qu'on a une grosse mobilisation prévue le 5 mars. Donc, avec le mot d'ordre Ciao Monsanto et Bye Bye Bayer. Donc, la mobilisation va se passer en centre-ville de Lyon. C'est une manifestation pour exiger l'expulsion de Bayer Monsanto, qui a son siège social à Lyon. Donc Bayer Monsanto, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne connaît pas, Monsanto déjà c'est relativement connu parce que c'est une firme qui produit des OGM et un pesticide appelé Roundup, qui est fortement controversé actuellement, qui devait être interdit il y a 2 ans, mais que notre gouvernement a finalement prolongé à l'utilisation pour les agriculteurs. Et ces firmes-là donc produisent de la chimie lourde depuis maintenant bien des dizaines d'années et ont été responsables, par exemple, de la production de l'agent orange qui a été déversé, un défoliant qui a été déversé au Vietnam et qui produit des malformations chez les nouveau-nés encore aujourd'hui, hein, qui sont responsables de la pollution au PCB du Rhône, puisque c'est eux qui sont détenteurs du brevet, les PCB, donc des produits chimiques issus de la production de plastique extrêmement polluants, qui polluent les limons des fleuves pendant plusieurs dizaines d'années. Bon, voilà, je pense que si quelqu'un s'intéresse vraiment au sujet, il y a plein de documentaires là-dessus. On verra qu'il y a plein de raisons d'exiger l'expulsion de Bayer Monsanto.
Je reviens une fois sur tout ça, par rapport à ces intermédiaires qui sans cesse gravitent autour des agriculteurs ou des paysans, entre le producteur et le consommateur. Cette troisième génération technologique proposée par le président conforte en quelque sorte encore cette industrie autour à pouvoir gravir. Et ça me laisse imaginer que, est-ce que c'est pas aussi un cadeau qui permet à certaines industries de passer donc du chimique au numérique, tout en douceur.
Oh bah, il n'y aura pas abandon du chimique, hein. Il y aura tout simplement un rajout d'encore une couche de technologie extrêmement coûteuse qui va faire que, effectivement, l'agriculteur va être d'autant plus endetté et va devoir d'autant plus agrandir son exploitation. Il va devoir d'autant plus simplifier ses cultures, hein, parce que on parle d'intelligence artificielle, mais en vérité, ces intelligences artificielles, elles sont pas réellement capables de travailler dans des systèmes complexes. En fait, on a besoin de champs en monoculture avec pas un brin d'herbe qui dépasse et uniquement la céréale génétiquement modifiée qui est prévue pour aller avec, quoi. Donc tout ça effectivement c'est pas un plan de relance de l'agriculture, c'est l'agriculture, elle est un prétexte pour distribuer de l'argent public à des sociétés de high-tech qui d'ailleurs parfois prennent l'argent et mettent la clé sous la porte avant d'avoir produit quoi que ce soit. On a aussi des propositions pour l'agriculture de demain. À savoir que la première des propositions, c'est mettre tout en œuvre de manière à installer 1 million de paysans d'ici à 2035, on va dire, d'ici une dizaine d'années. 1 million de paysans dans le cadre, effectivement, d'une agriculture beaucoup plus à échelle humaine, avec des circuits plus courts, avec une autonomie, une indépendance des fermes et bien sûr un respect de nos environnements, un respect du vivant qui est actuellement pas du tout la priorité de l'agriculture industrielle. Donc ça aurait un intérêt à la fois écologique, un intérêt économique pour ceux qui vivraient de ce travail-là et un intérêt social aussi parce que nos paysages sont conditionnés par la manière dont les agriculteurs travaillent. La vie de nos communes rurales est conditionnée par combien et qui sont les agriculteurs qui y travaillent. On a tout un programme de rénovation du système agricole français qui, si un gouvernement voulait bien s'en emparer, pourrait être mis en œuvre demain. Je ne dis pas que ça va se faire en un clin d'œil, je ne dis pas que ça va se faire sans heurts et qu'on va tout bouleverser facilement. Mais en tout cas, on a les moyens de, non pas revenir en arrière, mais prendre en fait... La direction qui nous amènera vers une agriculture bien plus résiliente que ce qu'elle est actuellement.
Voilà, ma question est revenue, c'était par rapport à la production que laisse entrevoir le discours du président, cette production qui serait aussi générée numériquement en fonction des échanges économiques. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut envisager un agriculteur avec un certain quota de production à ne pas dépasser et sous contrainte, par exemple, de pénalités financières au cas de dépassement?
Bon, les quotas ont été abandonnés là depuis une bonne dizaine d'années. Et d'ailleurs, la politique des quotas, c'était une espèce de moindre mal de manière à maintenir un prix correct. Mais ça n'a pas empêché que la filière laitière, c'est une des filières qui a été le plus laminée par l'arrivée du libéralisme économique dans les systèmes agricoles. Est-ce qu'il y aura un contrôle effectivement de la production avec des pénalités? Je sais pas parce que en fait plus l'agriculteur produit, plus ça fait baisser le prix d'achat pour le grossiste. Donc je pense pas que ce soit de l'intérêt de limiter la production. Par contre. Là où ça va se compliquer, c'est que toutes ces données-là, c'est aussi du flicage. Voilà, c'est du flicage. Et actuellement, on a déjà beaucoup de contraintes administratives, beaucoup de contraintes d'un point de vue des normes, des normes sanitaires, des normes d'hygiène, etc., qui sont faites par et pour l'industrie. Et qui sont absolument pas adaptés aux petites productions, aux petits élevages. Par exemple, en ce moment, on est censé avoir une grippe aviaire en France. Donc la réaction du gouvernement, c'est de dire « Ah bah, il y a la grippe aviaire, on va enfermer toutes les volailles ». Il se trouve que la grippe aviaire, 9 fois sur 10, elle se déclare dans des élevages extrêmement intensifs, où les animaux sont les uns sur les autres, dans des conditions à peu près abominables, qui font que, primo, ils sont très sensibles aux maladies. Ils ne sortent jamais, bien sûr, c'est des animaux qui ne voient jamais le jour. Donc comment ça se fait que la solution contre la grippe aviaire qui est préconisée, c'est d'enfermer les animaux, alors que c'est des animaux qui sont enfermés depuis toujours qui l'attrapent, cette grippe aviaire? Le problème, c'est l'industrie. Le problème, c'est les petits canetons qui sont produits en Roumanie, qui ensuite sont importés dans le sud-ouest pour être gavés et faire du foie gras français. Voilà. Et du coup, le virus circule via le système industriel, par le transport d'animaux, par le transport d'aliments, par les gens qui travaillent sur telle ferme, parce qu'ils sont spécialisés dans tel domaine de l'industrie du foie gras ou du canard ou de la poule pondeuse ou tout ça. Donc on prend encore comme bouc émissaire l'agriculture paysanne et on en profite pour remettre un tour de vis hygiénique. Et ça, le contrôle que va représenter, mais demain, demain en fait, c'est prévu que il y ait des photos 2 fois par semaine, satellites, des champs des agriculteurs pour vérifier si c'est bien effectivement la production prévue dans leur plan de culture déclaré à la politique agricole commune qui pousse dans le champ.
On n'a pas trop parlé de la génétique. On imagine bien aussi ces produits, certainement, qui vont arriver sur le marché transformés, inventés, triturés au niveau génétique. Qu'est-ce que ça peut laisser présager déjà, au niveau des pommes, j'ai lu incidemment hier qu'il y a 80% du marché des pommes, non, 40% du marché des pommes qui ne sont que de deux variétés, la Golden et je ne sais plus laquelle autre, des pommes de grande consommation, au détriment de centaines d'autres qui ont disparu des circuits. Est-ce que justement cette politique génétique tendrait à normaliser ou à uniformiser la production fruitière et légumière?
Bah, oui, bien sûr. En fait, les améliorations génétiques qui sont prévues sont des améliorations, comme d'habitude, en fait, pour que les fruits et légumes, et les céréales d'ailleurs aussi, rentrent dans les critères de la production industrielle, donc qui puissent être jolis, qui puissent être facilement stockables, qui puissent être transportés. Tout ça ne changera pas. C'est déjà le cas, en fait. Les Golden sont des pommes qui réclament 35 traitements par an pour être produites. Maintenant, on trouve des variétés anciennes qui résistent très bien à la plupart des maladies. Bien sûr, avec des rendements moindres, bien sûr, avec des mûrissements qui ne correspondent pas au stockage en frigo qui est actuellement pratiqué pour les pommes. Mais bon, de toute façon, il faut voir que le secteur fruits et légumes en France, il a été laminé ces 30 dernières années et que 85% de nos fruits et légumes sont actuellement importés. Et ça ne va pas changer avec robotique, génétique, numérique. En gros, c'est toujours un travail de simplification qui est opéré par l'industrie. C'est toujours un travail de massification qui est opéré par l'industrie. Et actuellement, la France est grandement exportatrice de céréales. Et c'est surtout sur la grande culture, donc la céréale, que ce genre d'amélioration va se concentrer. Amélioration entre guillemets, hein, bien sûr. Et même si de temps en temps on va avoir un robot désherbeur pour les maraîchers ou tel gadget qui va prévoir la grêle et ouvrir des parapluies pour le producteur de fruits, tout ça va rester du domaine de l'affichage et du détail. Hein, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que vu la révolution génétique qui est en route dans les outils dont se sont dotés les scientifiques actuellement pour modifier le génome, on va se retrouver avec une multitude de fruits, légumes, céréales génétiquement modifiés qui font qu'on joue aux apprentis sorciers, tout simplement. Hein, on en prend un petit bout là, on se dit « Ah ouais, ça serait pas mal si je le collais avec celui-là, autant ça résiste un petit peu mieux aux pesticides. » et on va répandre des mutations dans l'ensemble du génome de nos plantes. Même les plantes non génétiquement modifiées vont se croiser avec des plantes génétiquement modifiées. C'est la même logique qui nous a fait rejeter les OGM il y a 20 ans. Mais sauf que là, ça revient mais par la petite porte. Et qu'en plus, ça va revenir dans tout un tas de domaines avec des capacités à développer des produits génétiquement modifiés qui ont été décuplés, centuplés, en fait, depuis l'invention du maïs BT de Monsanto.
Est-ce que l'industrie prône donc la production de plantes, comment on pourrait dire, autant le paysan préserver ses productions, une partie de ses productions pour reconduire ses semences l'année suivante. Là, à l'heure actuelle, la production industrielle propose plutôt des semailles à court terme, c'est-à-dire qui ne sont utilisables qu'une année ou qui ne sont pas reproductibles. Donc, est-ce que c'est ça aussi la différence? Je ne sais pas comment on peut signifier si c'est une culture mort-née pour l'industrie, alors que le paysan travaille plutôt sur un produit vivant.
Bah, effectivement, hein, les semences industrielles, de manière à ce que l'agriculteur reste captif, ne sont pas ressemables, c'est-à-dire qu'elles sont stériles. Elles ont la valeur alimentaire qu'on leur connaît. Mais en tout cas, si on replante la graine, pour la plupart, ça ne marchera pas. Et si par le plus grand des hasards ou autre, cette graine acceptée de repousser. Maintenant, en fait, on a non plus des plantes entièrement génétiquement modifiées, donc entièrement brevetées, mais on a des bouts de génome qui sont brevetés. Donc le génome commence à être breveté petit bout par petit bout par petit bout. Donc s'il y a croisement avec des semences paysannes, par exemple, donc des semences que l'agriculteur fait pousser chez lui, a récupéré et veut ressemer dans son champ les années suivantes. Si à côté, il y a eu un champ OGM et que, par malheur, le semencier OGM, quand la céréale va passer dans la coopérative agricole, repère que cette semence paysanne s'est croisée avec sa semence à lui, le petit bout de génome qu'il a breveté va lui suffire pour faire des procès. Voilà. Donc, c'est encore une appropriation du vivant dans des buts mercantiles.
Là, c'était juste en passant. C'est une anecdote. J'ai vu récemment un film américain qui traite justement d'un agriculteur qui, depuis des décennies, récupérait ses graines. Et malheureusement, il est entouré d'agriculteurs encouragés par l'industrie, tels que Monsanto ou d'autres, et qui s'est retrouvé donc avec sa production souillé de ces semences. Et donc, sa production est devenue une propriété de Monsanto, je dirais. Mais je ne sais plus si c'est cette entreprise. De toute façon, je ne le diffuse pas, mais est-ce que ça te dit quelque chose, ce film? Non.
Non, je n'ai pas vu le film.
D'accord.
Je n'ai pas vu le film, mais on a plein d'exemples hein, comme ça. Par exemple, le Mexique, qui était un énorme producteur de maïs, enfin énorme en termes de variétés. Il y a des dizaines et des dizaines de variétés de maïs indigènes au Mexique. Et quand on fait des études sur les maïs indigènes mexicains, ben, on s'aperçoit que 35-40% des maïs indigènes mexicains se sont hybridés en fait avec les maïs génétiquement modifiés, qui pourtant étaient censés être stériles. Hein, voilà. Et bon, quand on prend les États-Unis, effectivement, là, on est vraiment dans les extrêmes, quoi. Aux États-Unis, on mange déjà du saumon génétiquement modifié, par exemple. Là, c'est encore une étape qui a été passée, quoi. C'est-à-dire on modifie des plantes maintenant, on modifie des animaux génétiquement. Au Japon, il y a des tomates génétiquement modifiées pour être de couleurs différentes. Il y a des chats génétiquement modifiés pour avoir un joli chat bleu, comme dans Alice au pays des merveilles, perché sur la cheminée.
Vincent Paltera, je te remercie de nous avoir donné un peu de ton temps pour nous parler donc de la Confédération paysanne de la Drôme, entre autres, de ces mouvements aussi qui ont eu lieu à Valence ce mercredi 9, et puis donc ce rassemblement prévu pour le 5 mars au centre-ville de Lyon. Et je te souhaite une bonne soirée. Le site de la Confédération paysanne est facile à trouver, hein.
Oui, il suffit de taper Confédération paysanne ou même Confédération paysanne de la Drôme si on veut avoir des informations un peu plus locales. Et on peut aussi trouver des renseignements sur les soulèvements de la terre et toutes les actions qui ont été précédemment menées, parce qu'il faut savoir que c'est quand même assez actif hein, ces derniers temps. Le mouvement des bassines a beaucoup fait parler de lui. Il y a eu des actions dans le Jura pour reprendre de la terre à des sociétés qui les laissaient en friche pour spéculer dessus. Et ça va continuer. Et on demande à tous ceux qui se sentent concernés par ces sujets-là de nous rejoindre s'ils peuvent. Voilà. Merci de m'avoir reçu.
Bonne soirée.
Dédicace à mes amis, merci d'être aussi gentils. Dédicace à ma famille, sans vous je partirai en vrille. Dédicace à toutes les fleurs, je vous porte dans mon cœur. Dédicace aux animaux, je vous trouve tous tellement beaux. Dédicace aux arcs-en-ciel, grâce à eux la vie est belle. Dédicace aux aliments, je les trouve très nourrissants. Dédicace à tous les gens, vous êtes vraiment amusants. Dédicace à la nature, elle a une sacrée allure.
Dédicace aux objets suivants: chaussures, lavabo, casserole, poignée de porte, lit, crayon, papier, table, ordinateur, rasoir, produit vaisselle, fenêtre, éponge, bol, pot de fleurs, ballon, horloge, coton-tige, piano, t-shirt, compas, brosse, bouteille, savon, stylo, radio, banane, clavier, pince.
Dédicace à Internet, dédicace à Facebook, dédicace à YouTube, dédicace à MySpace, dédicace à SoundCloud, dédicace à Twitter, dédicace à Google, dédicace à Skyblog, dédicace à Dailymotion, dédicace à Vimeo, dédicace à la Stéphanie, dédicace aux ordinateurs, dédicace à Universal Net Label.